Enlever, restaurer, conserver le patrimoine de nos terroirs. Une émission de la Fondation du patrimoine, présentée par Bernard Cassanier et Olivier Seb.
Bonjour Olivier.
Bonjour Bernard.
Ah, toujours content de se retrouver.
Certes.
Autour des micros de Radio Présence.
Très volontiers.
Et de Francky à la manette, comme on dit.
Tout à fait. Et on se promène volontiers parmi les monuments que vous nous présentez avec la Fondation.
La semaine dernière, on était dans le 32. Là, on va revenir dans le 31. Ça change un peu. Vous voyez, on reste limitrophe.
Et 31 ne veut pas dire Toulouse seulement.
Non, pas Toulouse seulement, puisque nous allons nous transporter dans le village de Portée d'Aspé, où nous allons contribuer à la restauration de l'église. L'église Saint-Roch.
Oui,
c'est oui. Et puis nous parlerons aussi, en suivant aujourd'hui, du domaine de Rachati, ça s'écrit, avec un Y à la fin, à Muret. Dans l'église Saint-Roch de Portée d'Aspé, l'une des missions de la Fondation du patrimoine, bon, et vous le savez, la création de souscriptions, et cette dernière peut être demandée par un organisme public, une collectivité territoriale ou une association auprès de la Fondation du patrimoine pour lancer une campagne de mécénat populaire ou d'entreprise visant à financer les travaux de sauvegarde et de valorisation d'un site possédant une forte valeur historique ou une haute valeur historique. Vous en savez quelque chose,
n'est-ce pas?
La mairie du village de Portée d'Aspé, dans le Comminges, c'est le fond du Comminges, fit appel à la Fondation cette année pour obtenir de l'aide dans un projet de restauration de l'église communale Saint-Roch. Vous savez qui était Saint-Roch, on pourrait en parler, Saint-Roch.
Ah, volontiers.
Parce que les jeunes ne connaissaient peut-être pas trop, et même certaines personnes plus âgées.
Surtout qu'on peut en parler, parce que le Saint-Roch est très sollicité actuellement, avec la pandémie que nous connaissons et qui modifie complètement nos comportements dans la vie, puisque Saint-Roch est considéré comme un saint qui protège de la peste. Et en fait, sa canonisation, dont on a pas très bien saisi si elle était du XIVe siècle ou plus tardive, viendrait du fait que ce roc qui vivait à Montpellier avait sauvé la ville de Montpellier. Je dis Montpellier à l'occitane, hein, on devrait dire Montpellier si on était parisien.
Mais vous le dites comme les Montpellier. Hein.
Eh bien, au fond, roc est devenu saint parce que la foule, les habitants de Montpellier l'ont porté en triomphe en demandant effectivement sa canonisation. Et depuis, on le voit très souvent sur le bord des routes, parce qu'avec son chien qui lui lèche la plaie qui s'est ouverte,
sur sa cuisse,
hein, il est là pour préserver le voyageur de ces dangers que sont les épidémies, et non seulement le voyageur, mais les habitants, et on le trouve très fréquemment dans une chapelle à l'entrée des cimetières, parce qu'il est effectivement celui qui protège de tous les maux, et donc qui permet le passage, si je puis dire, du grand moment final.
Alors je sais que vous n'êtes pas fils de paysan, et c'est peut-être pour ça que vous ne le savez pas, mais dans tous les villages, il y avait une chapelle Saint-Roch, en dehors du village, où il y avait une fête, je crois que c'est au mois de fin août ou début septembre, où il y avait une messe qui était dite, et où tous les agriculteurs, enfin les éleveurs, amenaient leurs troupeaux, parce qu'ils protégeaient également les troupeaux de toutes les maladies. Donc Saint-Roch était effectivement pour le genre humain, mais aussi pour tout ce qui nous entoure.
Tout à fait.
Alors l'originalité de cet édifice du XVIIe siècle réside dans sa tour-clocher, garni de meurtrières. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'églises qui étaient quand même plus ou moins fortifiées. Et de nombreuses questionnements entourent la présence de cet élément défensif militaire. Alors, l'hypothèse la plus probable ou la plus acceptée est qu'il appartenait à un autre bâtiment antérieur et qu'il fut réaménagé pour l'église lors de sa création.
Oui, c'est une tour-clocher qui en fait alimente, si je puis dire, l'interrogation et confère à l'église de Saint-Roch une part de mystère. Mais quand on est rentré, quand on rentre à l'intérieur de cette belle église Saint-Roch, eh bien, on est frappé par le mobilier qui est très riche. D'abord, il y a des fonts baptismaux qui ont été sculptés au XVe siècle, donc très antérieurs à ce que l'on trouve en général dans nos régions, qui sont plutôt plus tardifs.
Et antérieurs à l'Église, donc.
Et donc antérieurs à l'Église, effectivement. Et puis un retable garni de la Vierge en bois polychrome. Alors là, il est tout à fait dans le style de l'Église elle-même. Un tabernacle taillé dans un tronc d'arbre et puis des statues qui ornent l'ensemble de l'édifice dans son intérieur.
Alors, le projet de restauration comporte au fait que pour sauvegarder l'édifice religieux et redynamiser l'attractivité du village, 75 habitants seulement.
Ils ont de la chance, ils vivent bien dans un grand espace.
Des restaurations furent programmées sur la toiture du bâti. L'état de dégradation avancé de cette dernière permettait une infiltration importante d'eau, provoquant bien sûr un risque d'altération du mobilier et des peintures intérieures. La façade extérieure, quant à elle, a vu son enduit de fissuré par le temps, au point qu'il s'effondrait par plaques. Vous savez que quand les murs prennent l'eau, l'écroulement est vite là. Hein. C'est le toit qui fait tout.
Tout à fait. Alors, on a pris en charge ce lieu avec la ville, bien entendu, qui a décrété que c'était très urgent, avec un montant de travaux qui s'élève quand même à 134 104 euros, donc c'est très important.
Pour un village de 75 âmes.
Pour 75 habitants, et c'est dire qu'il y a un effort considérable, puisque la Fondation du patrimoine a collecté près de 6 300 euros pour la restauration de l'église, et l'objectif de la collecte, eh bien, c'est 20 000 euros. C'est donc plus d'un quart du montant qui ont été réunis en 3 mois, ce qui est tout à fait exceptionnel. Alors on va partir vers le domaine dont vous parliez, Bernard.
Alors le domaine de Rachati, ou Rakati, à Muret. Alors là, nous avons affaire à un propriétaire privé. C'est une SCI, puisqu'on intervient dans le cadre d'un label avec mécénat, c'est-à-dire que le porteur de projet se charge de trouver 20% de mécénat, ce qui lui permet de défiscaliser 100% du montant des travaux. C'est intéressant. Tout à fait. Quand l'aide demandée est sans issue, et pas issue d'une commune ou d'une association, mais d'un particulier, la Fondation du patrimoine peut être en mesure d'octroyer un label valable, valable 5 ans, permettant aux propriétaires d'un patrimoine immobilier non protégé de bénéficier, protégé aussi aujourd'hui, ça a changé, de bénéficier d'une réduction fiscale de l'impôt sur le revenu. Voilà. Je le disais, s'il a 2% sur un label, s'il a 2% du montant des travaux en mécénat, il peut défiscaliser 50% du montant des travaux. S'il trouve 20% de mécénat, il défiscalise 100% du montant des travaux.
Et alors là, on peut dire une chose, c'est que dans cette commune de Muret, ce n'est plus un particulier au sens propre, c'est une société civile immobilière qui donc bénéficie de ce processus de label de la Fondation du patrimoine. Alors on pourrait parler un peu de l'histoire de ce secteur.
Oui, bien sûr, c'est toujours intéressant.
Avec une maison de maître, puis des dépendances, un pigeonnier, et tout ça situé sur le plateau qui domine la Garonne, aux portes de la commune de la ville de Muret. Alors d'abord, c'était une métairie qui appartenait à Vital et Jean Navès, qui fut vendue en 1485, donc on a des archives très anciennes, à un certain Raymond Mathieu et Jean Lémont, et cette propriété a pris à ce moment-là le nom de Borderia, c'est-à-dire que Jean de Borderia, qui portait ce nom-là, futur juge régent de Comminges, s'en est rendu acquéreur. Donc en fait, ça porte le nom d'un des derniers propriétaires du XVe siècle. Et puis au XVIe, eh bien, c'est là que Borderia de Bas a permis d'avoir, avec des acquisitions considérables, pièces de terre, des vignes, des prés, un domaine qui était tout à fait remarquable.
Alors au XVIIe siècle, Gilles de Rachetin, c'était un avocat au Parlement de Toulouse, et sa femme, Anne de Borderia, arrière-petite-fille de Géant, fit reconstruire une maison de maître et agrandir les bâtiments agricoles. Alors, Borderia, peut-être ce nom, Borde, c'est la grange en occitan.
Oui.
Hein?
Oui.
Borderia, c'est peut-être le propriétaire, ça veut dire le propriétaire de grange, au départ. Oui. Le nom vient peut-être de ça. Ça serait intéressant étymologiquement de s'en rappeler. Depuis lors, le nom de Rachati a fait place à celui de Rachetin. voilà, a remplacé, il n'a pas fait place, il a remplacé celui de Rachetin.
Oui.
Parlez-nous un peu du projet de restauration, mon cher Olivier.
Eh bien, en fait, on a un site qui mérite beaucoup d'entretien. Il a été plus ou moins abandonné à l'usure du temps, et donc petit à petit il s'est dégradé. Il faut surtout restaurer la demeure, d'importants travaux sont programmés d'ailleurs, mais aussi sur la métairie, la grange et le pigeonnier. Et il s'agit de restaurer non seulement les charpentes, la zinguerie du toit, mais aussi les menuiseries extérieures et les revêtements des façades. C'est un domaine qui est très vaste, mais qui effectivement a pris l'eau, et c'est donc toujours très difficile. Les éléments décoratifs ont été influencés par le style néoclassique, puisqu'on a vu que les bâtiments ont été faits au XVIe siècle, mais repris par la famille qui l'avait acquise au XVIIe siècle d'une manière très classique. Et on a besoin de conserver ce caractère qui est tout à fait particulier. Alors, un montant de travaux qui est très important.
510 000 euros ou 520 000 euros à peu près.
Oui. Et donc on attend d'avoir une collecte de dons auprès du propriétaire qui pourrait atteindre 30 600
euros.
Besoin,
oui. Voilà, parce 31 qu'il faut... 000 euros, il faudrait récolter pour boucler le budget. Donc là, tout le monde peut participer et je crois que c'est intéressant. Alors, je veux signaler que concernant les labels, il faut que ce soit accessible ou visible de la rue pour le public. Et on fait en sorte également que ce genre de label, les lieux soient ouverts pour les journées européennes du patrimoine.
Tout à fait. Et on peut rappeler le site sur lequel vous trouverez ce label.
Bien sûr.
C'est-à-dire www.fondationpatrimoine.org avec un no-code qui est celui, bien entendu, de l'église de Portée d'Aspet et aussi de ce label. Vous le trouverez facilement.
Je vous remercie, Olivier.
Avec
Bonne
plaisir.
Semaine.